Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'épisode numéro 136 qui va porter en fait sur le Grand Prix de Monaco et le Indy 500 2023 qui auront lieu le dimanche un après l'autre, donc 9h le départ du Grand Prix de Monaco et 12h45 le 500 000 d'Indianapolis, évidemment, aux heures de Québec. Donc, pour parler de ces deux événements phares dans l'univers de la course automobile, et même deux des courses les plus connues, j'accueille avec moi Ana Maria Mercado López. Salut Ana Maria.
Salut Abdou.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Super. Ensuite, j'ai avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Super. Et j'accueille avec moi un des modérateurs du groupe Facebook La Monoplace que vous pouvez rejoindre en tout le temps. Il s'agit de Carl Sousa Teixeira. Salut Carl.
Bien bonsoir Abdou.
Comment vas-tu?
Je pète le feu en cette magnifique soirée.
Excellent. Évidemment, on va parler de ces deux courses et Carl est un fan aussi d'IndyCar, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai invité. Donc, mais avant, on va parler du Grand Prix de Monaco qui aura lieu cette fin de semaine. Évidemment, 3 semaines après le dernier Grand Prix, évidemment avec l'annulation très compréhensible du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et d'ailleurs, on est très content de voir que ça se passe mieux du côté de la région d'Émilie-Romagne. Je sais qu'il y a encore du monde qui est affecté. Mais ce qui a fait en sorte que la Formule 1 a eu une fin de semaine off, forcée, et de préparer le Grand Prix de Monaco, qui est encore aujourd'hui, même si ce n'est plus, il n'y a pas encore celui, c'est une des courses les plus importantes du calendrier. Alors, je vais commencer avec l'invité, Carl. As-tu hâte à ce Grand Prix de Monaco?
Pour une raison qui m'échappe, j'ai beaucoup plus hâte à cette édition du Grand Prix que les années précédentes. Je sens que s'il y a bel et bien, et puis on pourra en parler plus tard évidemment, mais je sens que s'il y a bel et bien un Grand Prix dans lequel Ferrari ou Aston Martin pourraient avoir une réponse à la machine Red Bull, c'est bien le Grand Prix de Monaco. Donc, j'ai très hâte de voir ce que Charles Leclerc et Fernando Alonso vont nous réserver. Tout mon amour va à Lance Stroll et Carlos Sainz. Par contre, je vois bien, je vois mieux Charles Leclerc et Fernando peut-être sortir un tour magique samedi matin et nous réserver un Grand Prix de la mort ce dimanche.
Oui, on a très très hâte et puis justement on va reparler de ces deux protagonistes un peu plus tard dans l'épisode, dans cette portion d'avant-course du Grand Prix de Monaco. Et j'ai oublié de fermer mon son Facebook. En attendant que je fasse ça, Marc-André, toi, as-tu hâte à ce Grand Prix de Monaco de cette année?
Oui, j'ai vraiment hâte. Comme Carl, je sens que ça va être une course qui pourrait être intéressante. On s'entend que les qualifications à Monaco sont toujours très importantes. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est toujours un Grand Prix que j'aime parce que au-delà de la course, il y a une importance dans toute la fin de semaine pour s'assurer une bonne position. Souvenons-nous la péripétie Charles Leclerc qui s'était mis dans le mur l'an dernier, pas pu partir en premier. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à Monaco. Il y a des pilotes qui ont connu des difficultés là-bas qui pourraient être intéressants. J'ai hâte de voir les recrues, comment qui vont se tenir à Monaco. C'est un circuit difficile qui demande de la concentration. Donc, c'est toujours un Grand Prix que j'attends en haute impatience.
Clairement, en fait. Et oui, il va y avoir des recrues dans les Formule 1, mais ils connaissent tout aussi le circuit de Monaco. Je pense entre autres à Nick de Vries, Logan Sargeant, qui ont roulé à Monaco en Formule 2, mais en Formule 1, c'est une autre paire de manches. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ils vont se débrouiller, en fait. Et on va, je vais laisser la parole maintenant à Anna Maria. Toi, est-ce que Anna Maria, est-ce que tu as hâte de voir comment les Formule 1 vont se dérouler cette année sur le circuit de Monte Carlo?
Et oui, comme vous savez, moi aussi, j'attends avec impatience pour voir comment est-ce qu'ils vont se comporter la voiture dans ce circuit. Parce que cette année, c'est un peu différent. Et Monte Carlo, on a vu qu'il y a la difficulté à dépasser les voitures. On a déjà vu quelques courses cette année. Je ne m'attends pas grand-chose cette année à Monaco. C'est ma préférée.
OK. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser la première question. Est-ce que pour la première fois de la saison, on va voir Red Bull être vraiment menacé? Je vais poser la question à Marc-André juste parce que, évidemment, tu es notre fan de Red Bull avec Brian qu'on salue. Donc, est-ce que Monaco pourrait être vraiment la première course de la saison où on va voir les taureaux rouges menacés?
Ben, je pense que oui, parce que c'est un circuit qui est lent. C'est un circuit où tu peux pas profiter énormément de ton avantage moteur. Il faut que tes pilotes soient solides, il faut que tes pilotes soient concentrés, il faut beaucoup de choses à Monaco. Puis effectivement, je pense que si les écuries derrière peuvent en profiter cette année, je pense que oui. Est-ce que ça va être Aston Martin? Est-ce que ça va être Ferrari? Est-ce que ça pourrait même être Mercedes qui continue leur progression? On va voir aussi des avancées technologiques sur chaque voiture qu'on était supposé de voir à Émilie-Romagne que nous n'avons pas vu. Donc, est-ce que certaines écuries, comme Ferrari, qui semblait dire qu'il amenait plusieurs éléments importants de leur voiture à Émilie-Romagne qui n'ont pas pu faire, est-ce que ça va paraître aussi à Monaco? Donc, c'est plusieurs questions qu'on peut se poser à quelques jours à peine avant le Grand Prix. On va le voir avec les tests dès vendredi si certaines écuries peuvent sortir du lot. Mais oui, effectivement, s'il y a un circuit que tu me disais que Red Bull était menacé, effectivement, ce serait à Monaco. Puis c'est ça à chaque année, en fait. L'équipe qui est la meilleure, qui a le meilleur moteur, qui a la meilleure voiture, est toujours menacée à Monaco. Ça devient une habitude.
OK. Anna Maria, toi, est-ce que tu penses que Red Bull va être sérieusement menacé cette année à Monaco?
Bien sûr, comme toutes les années, et cette année en plus, c'est l'équipe à battre. Parce que ça dépend aussi beaucoup de la qualif. Ça va être primordial à Monaco. Et on sait que Ferrari est capable. Il est capable d'aller chercher la pole. Ils l'ont déjà fait. Et que cette année, ça se peut qu'ils arrivent et on connaît déjà Monaco, c'est lui qui va en avant et à l'avantage.
Définitivement. Parce que, et on en reparlera aussi, Monaco, c'est vraiment le circuit où la stratégie est super importante. Et toi, Karl, est-ce que tu crois que Red Bull va être sérieusement menacé cette année? À Monaco, ou ça va juste être de la poudre d'escampette que Red Bull va prendre?
Je crois au hype train et je partage l'opinion de Marc-André Anna Maria. S'il y a bel et bien un Grand Prix qui, justement, pour lequel je vois qu'il y a un enjeu, où il n'y a pas une certitude que soit Sergio Perez ou Max Verstappen puisse gagner, c'est bien celui-ci. Le consensus veut que Ferrari ait une voiture qui soit très bonne dans les virages à basse vitesse. Et donc, avec un circuit comme Monaco qui, justement, ne joue pas sur la puissance moteur, ne joue pas sur les virages à très haute vitesse, je vois peut-être Ferrari nous sortir de la magie samedi. Et ben on ne peut jamais sortir Fernando Alonso de l'équation. Ni Mercedes qui, soi-disant, apporte leur fameuse mise à jour tant attendue. On va devoir dire malheureusement au revoir à leur voiture qui n'a plus de side pod. Donc, très triste d'un côté de voir ce concept très original quitter la F1, mais d'un autre, heureux de voir que Mercedes semble faire un pas à l'avant pour justement rejoindre les Goliaths qui sont des secondes et des secondes en avant. Donc, tout pour dire, il y a vraiment plusieurs mises à jour, plusieurs nouvelles variantes qui entrent en jeu cette fin de semaine qu'on n'a pas encore vues cette saison. Donc, avec les comparé au Grand Prix précédent, je vois vraiment beaucoup d'intérêt à suivre ce Grand Prix-là ce dimanche.
Et tu en as glissé un mot, Carl. Si Red Bull ne devait pas gagner ce Grand Prix de Monaco, est-ce que ce serait Aston Martin qui reviendrait avec les grands honneurs? Parce que Fernando Alonso a 4 podiums sur 4 podiums sur les 5 Grands Prix cette saison. Moi, je pense que quand même, le fait de voir Alonso mener Aston Martin au sommet, littéralement, le jour où ça ira mal, c'est sûr que Aston Martin va pouvoir... Il y a Fernando Alonso qui va pouvoir aller chercher le gros du travail. C'est presque littéralement sur l'échiquier une place de plus. Et Alonso a quand même gagné Monaco à 2 reprises. Alors, il sait comment gagner. Il a souvent bien fait à Monaco. Donc, il sait comment gagner ce Grand Prix. Alors, maintenant, avec une voiture qui va lui permettre d'aspirer à minimum une quatrième ou troisième place, s'il fait le travail déjà en qualification, il pourrait nous offrir déjà... Ben, c'était déjà la première surprise de la saison. La constance d'Alonso, c'est Aston Martin, mais ça pourrait être une autre si grosse surprise de voir l'Espagnol gagner pour une troisième fois dans les rues de la Principauté. Donc, je ne sais pas si Anna Maria, tu veux ajouter quelque chose là-dessus sur les possibilités de voir Alonso sur la plus haute marche du podium dimanche?
Tu me connais déjà, des fois moi et la prévision, ils sont déjà forts, mais disons que peut-être oui, Alonso, il peut avoir la victoire cette année, mais je ne pense pas à Monaco. Pourquoi? Mais c'est juste parce qu'à Monaco, il y a la qualification, que c'est très, très importante. Et on a vu que Aston Martin, même si pendant la course, Alonso est capable d'aller chercher un petit peu plus, en qualification, c'est un peu plus difficile. Ferrari est encore à l'avant. Et que c'est là le problème. Et je dis, tant que Ferrari et Red Bull soient plus rapides, au moins que Checo y fasse encore les coups, il ne va pas être un autre.
Non. Je ne pense pas que Checo... Je pense pas que... On va avoir une autre histoire de théorie du complot à dormir debout, encore une fois. Là.
Non, je ne sais pas, mais Checo a dit, mais je connais déjà la clave pour gagner à Monaco. Je dis, voilà.
Ouais, non, je ne vais pas rentrer dans les théories du complot. On en a déjà assez dans ce monde pour que ça soit intégré aussi dans la Formule 1. Et toi, Marc-André, est-ce que tu crois que Alonso, projet 33, ça va se réaliser à Monaco?
Ben, c'est certain que c'est un candidat numéro un pour gagner Monaco, si ce n'est pas Verstappen et Perez. Mais comme Carl l'a dit, j'écarterais vraiment pas la possibilité que Mercedes connaisse un bon Grand Prix. C'est une voiture qui m'intrigue dans les virages là. C'est une voiture qui m'intrigue avec tous les changements qu'ils ont pu faire dans les dernières semaines. J'ai l'impression que c'est une voiture dangereuse. Mais si je reviens à Alonso et Aston Martin, ben c'est certain que ce sont des candidats de choix. Ils sont rapides. La voiture est stable. À Monaco, on le sait, c'est c'est très important d'avoir une voiture qui est stable, qui se contrôle bien dans le livrage, parce que le mur s'en vient tellement vite que tu n'as pas le choix d'avoir une stabilité parfaite. Et Aston Martin, c'est exactement ce qu'ils ont depuis le début de la saison. Ils ont eu quelques soucis dans les premiers Grands Prix, mais ils ont vraiment bien su travailler avec les réglages pour optimiser leur stabilité. Puis encore là, si je ramène au réglage, ça va être hyper important d'en avoir des bons rapidement en début de séance, de bien comprendre la voiture et les réglages pour chaque pilote. Donc, si Alonso le fait bien, ben c'est certain que ça va être un candidat de choix pour la victoire.
Oui, j'ai hâte de voir aussi, mais on va voir comment la Aston Martin va se débrouiller lors des essais du vendredi. Vous avez parlé de Ferrari. Charles Leclerc a quand même bien fait Monaco et a obtenu la pole par défaut l'année dernière, grâce à celle de Sergio Perez. Et en 2021, grâce à celle de lui-même avec son accident, même s'il n'a pas débuté la course. Et l'année dernière, on s'entend peut-être que Leclerc aurait dû gagner ce Grand Prix si ce n'était pas de la bourde stratégique de Ferrari dans les puits.
It's the history of the Ferrari.
Donc, ça, j'espère que pour cette année, ils ont appris de leurs leçons, parce que si c'est vrai que leur voiture est quand même bonne dans les virages lents, et ça a été le cas, ben là, il va falloir, là, la balle est dans leur camp. Donc, j'ai quand même l'impression que Leclerc va être un candidat potentiel pour la victoire. Évidemment, ça va dépendre de son rendement en qualification. Karl?
Parlant des performances de Leclerc en qualification, si on peut en mettre un mot là-dessus, étant donné sa performance à Miami que je qualifierais de d'affreuse et du Grand Prix d'Émilie-Romagne qui a été reporté, je vois un Charles Leclerc qui en ce moment doit rebâtir sa confiance. La Ferrari est une voiture qui est très rapide, surtout en qualification comme on a pu le voir, mais qui est capricieuse. On l'a vu à Miami, sous pression, Charles Leclerc peut faire des erreurs et dans un contexte où il a fait un accident dans ses dernières qualifications. Il a eu un Grand Prix à oublier à Miami et n'a pas eu la chance de rebâtir la confiance avant le Grand Prix de Monaco, qui est un endroit où, je crois, le pilote et sa voiture doivent avoir pleinement confiance l'un envers l'autre. J'ai du mal à voir Leclerc à 100% de sa capacité qui est énorme en qualification. Et j'ai très hâte de manger mes mots samedi matin et de voir Leclerc faire la pole position. Mais moi, ce que je vois, c'est une pole position venant soit de Red Bull ou d'Aston Martin. Malgré la vitesse de la Ferrari, je vois pas comment Leclerc peut rebondir si rapidement. Surtout étant donné son fameux Monaco curse qui à chaque année l'empêche de justement monter sur le podium et même gagner le Grand Prix. C'est ça. Donc, j'ai hâte de manger mes mots, mais mon argent est sur Fernando Alonso ou bien l'une des deux Red Bull, bien évidemment.
OK. Marc-André.
Je ne peux aller à l'encontre des commentaires de Karl. Je pense qu'il a vraiment bien résumé la situation. Leclerc se cherche, il cherche de la confiance. Puis c'est pas à Monaco que tu dois travailler pour retrouver ta confiance. Ça va être plus tard dans la saison que ça va se faire. J'ai l'impression que ça pourrait être catastrophique pour Leclerc à Monaco. Encore là, ça se peut qu'il me donne tort, mais j'ai l'impression que ça va être la voiture n'est pas en forme, du moins, elle ne l'était pas à Miami. Est-ce que les avancées, on sait qu'il voulait ajouter un nouvel aileron ou un nouveau réglage sur l'aileron, est-ce que ça va aider la voiture à avoir plus de stabilité? Je l'espère pour Ferrari, parce que sinon, ça pourrait vraiment être très difficile. J'ai hâte de voir aussi comment Carlos Sainz va réagir avec tout ça. si jamais Carlos Sainz fait une meilleure qualification que Leclerc, ça aussi, ça pourrait lui jouer dans la tête à partir du dimanche. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais je pense que si Leclerc souhaite avoir un bon Grand Prix, et ça peut sembler un peu classique comme France, mais je pense que ça va lui prendre d'excellentes qualifications pour le mettre en confiance et pour qu'il n'ait pas à se pousser à fond durant la course pour gagner des positions parce qu'il va en avoir perdu en qualification.
Anna Maria.
Ouais. Je pense que Carl et Macandé l'ont tout dit. C'est sûr que pour Charles, c'est un peu difficile à Monaco. C'est comme pas la place pour se reprendre. On dirait que lui-même, il est honté pour Monaco. Lui est capable d'aller chercher la pole, mais il est capable aussi d'aller chercher les murs. C'est ça le problème. C'est là que ça devient trop difficile. Mm-hmm. Que je pense pas que ça, c'est pas un candidat. Peut-être oui, il est capable d'aller chercher la pole, mais je ne le vois pas finir en victoire à Monaco. Mais par contre, Carlos Sainz, ça se peut parce que lui est tout tranquille, il n'y a pas de pression. Il juste attendre, igual comme les choses se déroulent, et des fois, ça porte des fruits.
OK. Ouais. J'ai hâte de voir ce que Ferrari va donner, surtout pour Charles Leclerc, étant donné que c'est sa course à domicile. Vous avez parlé de... On a parlé... en fait, pas on. Vous avez parlé un peu de Mercedes. Évidemment, l'annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne a forcé plusieurs écuries, dont Ferrari, à repousser leur nouvelle mise à jour importante au Grand Prix d'Espagne qui aura lieu la fin de semaine prochaine et qui est un très bon circuit pour justement tester ces nouvelles installations mises à jour de pièces. Mais chez Mercedes et pour quelques écuries, ils ont décidé d'y aller. Ben, Émilie-Romagne ou pas, on va devancer le tout. Et surtout, leur nouveau modèle avec ponton qui a été... d'ailleurs, je pense qu'il y a une photo d'Albert Fabrega qui a circulé sur Twitter avec justement une Mercedes, une partie de la Mercedes avec ponton. Donc, mais Monaco, c'est peut-être pas le circuit qui est fait pour amener des mises à jour majeures. Est-ce que c'est un gros pari que Mercedes est en train de faire, Carl?
Quant à moi, ça peut être plusieurs choses. Premièrement, ça peut être tout simplement dû au fait que, avec la contrainte de temps qu'ils ont eu, ils ont tout simplement décidé que ça ne valait pas la peine de retourner à l'ancienne version de la voiture pour le Grand Prix de Monaco. Ça peut aussi provenir d'un endroit, ça peut peut-être être du désespoir de la part de Mercedes. On sait que les ingénieurs en charge du bolide de Mercedes ont un ultimatum. Toto Wolff est un leader qui est pas très patient, qui veut des résultats et qui est prêt, qui est de manière justifiée très frustré par la situation entourant la performance de Mercedes. Donc, quant à moi, ça peut être il peut avoir plusieurs raisons derrière justement cette décision-là. Par contre, je vois peu de plus-value à apporter une telle mise à jour dans un circuit qui n'offre très peu de comparaison au circuit qui peut pas offrir justement une bonne comparaison de performance. Je crois qu'on verra vraiment le vrai potentiel de la nouvelle Mercedes la semaine prochaine en Espagne et que cette semaine, peut-être qu'ils l'utiliseront afin de vérifier que la cohérence entre les simulations justement fonctionne sur le circuit. Donc, même malgré le fait que j'ai mentionné Mercedes tout à l'heure comme potentiel risque à la victoire, n'empêche que c'est un tout nouveau concept pour eux. Pour eux, c'est comme s'ils retournaient en pré-saison 2022. Ils partent de très loin. Ils ont investi beaucoup de temps et d'argent dans leur concept sans ponton. Donc, doivent bien évidemment rattraper Red Bull, Aston Martin et compagnie qui ont choisi le bon concept, si on veut, celui qui a le plus de potentiel à long terme. Donc, c'est ça. Je crois que le vrai potentiel sera dévoilé la semaine prochaine à Barcelone.
OK. Marc-André?
Je suis d'accord. Je ne pense pas qu'on va voir le potentiel numéro un de Mercedes à Monaco, mais je trouve ça quand même audacieux de l'amener dans ce circuit. Mais à la fois, je pense que c'est une bonne idée parce que à un moment donné, tu as travaillé tellement fort sur ton concept, tu as travaillé tellement fort pour revenir avec ce concept sans ponton que, écoute, à un moment donné, il est prêt. Là. Quand c'est de gros changements comme ça, je pense que de ramener la version que tu veux pas, ça aurait pas été l'idéal. Fait que je pense vraiment que c'est tout simplement une question de timing. Désolé de l'anglicisme, mais tout était prêt. Ils ont décidé d'y aller, puis peut-être que les résultats vont être super bons aussi, mais c'est certain que sur le plan des temps, puis comme tu l'as dit tantôt, Abdou, sur le plan des comparaisons, je pense que c'est certain qu'en Espagne, ça va être la place pour ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça, la voiture était prête, ils ne voulaient pas attendre. Ils veulent voir les résultats tout de suite avec tout ce qu'ils ont investi. Je pense que ce n'est pas une question de manque de patience, c'est tout simplement qu'il faut voir qu'est-ce que cette voiture-là peut donner. Peu importe le circuit, de toute façon, le concept va sûrement être repris l'an prochain. Puis l'an prochain, bien, on va être à Monaco. Fait que, tu sais, je pense vraiment que le concept était prêt puis il fallait le lancer.
OK. Anna Maria?
C'est que les gars, il avait déjà dit, c'est comme moi. De toute façon, il allait le tester à Imola. De toute façon, il va se retrouver à Monaco. Fait que tant qu'à faire, moi, je pense que j'aurais fait la même chose. Parce que peut-être ça ne va pas donner peut-être pas la performance, parce qu'on sait que Monaco, ce n'est pas un circuit de vitesse pure, mais par contre, ça peut donner la confiance. Et si Hamilton y a la confiance et que se sent bien, tant mieux. Ils vont pas voir le vrai potentiel, mais peut-être que les pilotes ils vont être plus à l'aise et ça va aider. Mais par contre, c'est Barcelone, la place pour tester. On connaît déjà Barcelone, c'est là que à l'aise en aller, mais c'est ça. Mais je dis, peut-être que ça va aider. La victoire, on sait jamais. Les murs, ils sont proches. Verstappen y avait avant l'éclair, c'est lui qui ne finit pas à Monaco.
Ouais, exact. Donc, ça va être important.
Ouais, c'est ça.
Ça va être important.
Oui. Pour moi, Hamilton, Mercedes, ça se peut. On dirait jamais, non? Il y avait Pirelli que. Ça aide un petit peu. Hein?
Ah, et parlant de Pirelli. Peut-être qu'on verra les composés de pneus mouillés parce que, bon, les conditions parlent de 20% de risque d'averse, de pluie, mais ça pourrait en avoir un peu plus durant l'après-midi et potentiellement durant la course. Donc, la pluie pourrait être un facteur important dimanche, même samedi aussi. Mais ça va être, de ce que j'ai vu, ça va être potentiellement dimanche. Alors, c'est très important de réussir sa qualification et surtout sa stratégie aussi, parce que je lisais dans l'article, sur le site officiel de la Formule 1 avec Bernie Collins, ancienne stratégiste chez Aston Martin. La position en piste, elle est évidemment importante. Et surtout quand on regarde aussi les temps entre la pole puis le dernier rang, c'est 3,6 secondes. Donc, il y a quand même une différence assez importante. Donc, ça va être très important de bien timer sa sortie non seulement pour son tour de qualification rapide, entre autres en Q1, parce que c'est assez facile de se faire piéger en Q1 avec 20 voitures, mais en course aussi, c'est surtout essayer de faire l'overcut. Donc, c'est-à-dire de rester le plus longtemps en piste et quand lorsque vient le temps de l'arrêt au puits, ben là, on peut y aller directement et repasser devant. Donc, et on l'a vu aussi, il y a des pilotes qui se sont fait prendre par cette stratégie parce que d'autres ont été, parce qu'ils se sont fait outsmarter par d'autres écuries. Et avant de passer à la portion IndyCar, Indy 500, avez-vous une note pour la livrée triple couronne de McLaren? Carl, vu que t'es un gars qui aime les livrées, quelle note tu donnes à la livrée McLaren?
Vous allez peut-être être surpris, mais malgré le fait que je ne suis pas le plus grand fan de McLaren, je dois admettre qu'il s'agit de l'une des plus belles livrées que j'ai vues des 5 dernières années. C'est une livrée qui, quant à moi, de loin, bat celle que McLaren a amenée en 2021 à Monaco. Toute l'histoire liée à la livrée, le petit cliché aux livrées Marlboro des années 90 et 80, le noir, justement l'utilisation du orange papaye à la place du rouge Marlboro, tout pour moi me dit qu'il s'agit d'une magnifique livrée qui sera encore plus belle en personne. La seule chose qui m'éteint un peu, si on peut dire de même, par rapport à cette livrée-là, c'est les roues Google Chrome qui soudainement sortent beaucoup plus du lot et qui sont affreuses. Moi, avec cette livrée-là. Ne fonctionne pas.
J'aime bien les roues Google Chrome. Au moins, c'est... Mais ça fit avec la voiture actuelle.
J'aurais préféré des roues Internet Explorer, étant donné la performance de McLaren. Mais bon.
Anna Maria, quelle note tu donnes à la livrée McLaren?
Moi, je suis très difficile avec les couleurs, mais disons que les Google Chrome, il a cassé les livrées. C'est ça, pour moi, si on enlevait ça, les couleurs de Google, c'était parfait, mais avec ça, moi, je les trouve pas beaux, c'est tout. Et avec ça, moi, je ne suis pas capable. Je dis non, mais j'en ai scrappé. C'est comme que tu tombes le dessin, c'est tout beau, tout parfait, et tu mets quelque chose. Mais oui, mais c'est le commanditaire, mais enlever la couleur, ajuster, je ne sais pas. Il y a un peu de créativité, il y a manqué un peu de créativité là.
OK. Donc, en gros, tu donnerais genre quelle note à la livrée actuelle? Ben, pas actuelle, mais la livrée Monaco de McLaren?
Ah, mais je donnerais... Ben, juste à cause de Chrome, c'est un 7 tout 10.
OK. Marc-André?
Moi, je la trouve formidable. Et j'ai même changé ma note. Au départ, je lui avais donné une 8.2, mais ça mérite un genre de 8.7. C'est vraiment formidable comme un livret. Parce que, de toute façon, quand tu vas... Par exemple, les gens qui vont être à Monaco, ils verront pas les roues. Ça va trop vite. On l'oublie, les roues. Le Google Chrome, c'est bien beau quand la voiture est à l'arrêt, mais on les oublie. Mais c'est ça... Toute l'histoire qui est derrière cette livrée-là. Ils ont fait un travail formidable aussi pour amener... ils l'avaient fait en 2021, si je ne me trompe pas. T'sais, rapporter l'histoire, c'est tellement important. Puis je pense qu'ils l'ont vraiment bien fait. La voiture est formidable. Est-ce qu'un jour, ils vont peut-être pencher vers de nouvelles couleurs historiques. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant de ramener ça à long terme. Mais en même temps, je pense qu'ils veulent les garder pour les livrer Monaco. Mais non, je la trouve formidable. Puis c'est juste dommage que cette voiture-là ne puisse pas avoir une chance de gagner ou même de bien performer parce que c'est ça aussi qui éteint un peu la flamme, comme Carl l'a dit tantôt. C'est tout simplement la performance de cette voiture qui ne pourra pas être au mérite de la beauté.
OK. Oui, et...
Mais les gars, par contre, désolé. Par contre, ils vont pas si vite qu'on va bien l'apprécier.
Ouais, mais on verra. J'ai hâte de voir. Et puis justement, Carl nous a envoyé dans le chat en fait, c'est juste c'est pas méchant. C'est juste, ça me fait penser à une crème glacée napolitaine. Puis j'ai faim. C'est parce que j'ai faim. J'ai goût d'une crème glacée, mais
c'est même pas les mêmes couleurs.
Abdou. Je te conseille de jeter ta crème glacée si elle porte les couleurs de la réflexion.
Non, mais blague à part, je l'aime relativement bien. Et puis justement, ben c'est un mélange des... c'est un mélange des livrées qu'on a des au 500 000 d'Indianapolis, alors que dans le chat, ça fait battre Julien Picard à propos de la délivrer McLaren Indy. Mais j'aime beaucoup les intentions. J'aime beaucoup, en fait, moi je donne un 7.5. Les couleurs sont belles. C'est beau, mais c'est juste pour moi un peu l'exécution. J'ai vraiment adoré. Ben, j'aime bien la livrée, là. C'est juste un 7.5. Je pense que ça aurait pu être mieux, mais c'était le maximum. Donc, écoutez, si jamais c'était. Aïe, c'est parfois, là. Ça a l'air d'être beau, propre au bulletin GP, mais parfois ça dérape. Et ça se voit dans les commentaires. Ça se voit dans le chat privé.
Les couteaux volent très bas.
Ouais. Ah oui, oui, oui. Donc, Julien dit qu'il ne peut pas. Il rance comme. Il a rancé. Donc, mais on salue Julien Légaré-Turcotte qui souhaitait qu'Antonio Giovinazzi rentre dans la Ferrari.
Oui. Il y a encore la chance.
Non. Peut-être un jour, mais bon, on va passer tout de suite à IndyCar parce que c'est the greatest racing spectacle in the world. C'est pas moi qui le dis. C'est littéralement la marque de commerce de IndyCar. C'est un trademark. Donc, Alex Palou va partir en pole position avec un Rinus Vicky deuxième et Félix Rosenqvist sur la première ligne en troisième place. Évidemment, il y a Graham Rahal dont son élimination nous a fait vraiment mal parce que c'était de très, 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 très peu en termes de vitesse moyenne sur quatre tours. Et il avait été éliminé par son coéquipier chez Rahal, Letterman Lanning Racing, Jack Harvey. Mais, bon, je dirais pas... Mais pour lui, il y a eu l'accident de Stephen Wilson lors des essais de lundi avec Catherine Legg. Et Wilson s'est fracturé une vertèbre. Va manquer l'épreuve et Rahal va le remplacer dans la voiture numéro 24 de Dryer and Reinbold, excusez-moi. Donc, c'est quand même une bonne chose, mais est-ce que vous avez hâte à cette édition des 500 000 d'Indianapolis? Et je vais commencer avec Carl, ensuite Anna-Maria et Marc-André.
Je suis en extase face à cette édition des 500 000 d'Indianapolis. Comme tu l'as mentionné, lors du fameux Bump Day, on a eu droit à un coup de théâtre. Graham Rahal se fait éliminer des 500 000 des Annapolis. Personne n'aurait pu prévoir ça. Ryle Letterman, Lanigan Racing connaissent une année en dentis. Leur voiture, ils prévoyaient ne pas bien performer lors du 500 000 des Annapolis, mais personne n'aurait pu prévoir qu'ils finissent 34e. Et malheureusement pour justement, dû à l'accident de Stephen Wilson, Graham Rahal s'est fait donner la chance de sa vie. Il va partir en dernière place, si je ne me trompe pas.
Ouais.
On souhaite à Stephen Wilson un prompt rétablissement.
Oui.
D'un accident qui était absolument effrayant. Oh. Lors des séances post-qualification. Donc, je lui souhaite de se rétablir. Ça doit être une déception pour lui de se qualifier, surtout lui étant le frère de Justin Wilson, qui est l'un des pilotes d'IndyCar que j'admire énormément. Pour lui de participer à l'Indy 500 et de ensuite perdre cette chance-là, je parie que ça va lui mettre le feu aux fesses pour les prochaines années, pour son retour éventuel. La chose qui me titille le plus cette année, ou du moins qui rend cette édition très intéressante, ben c'est un peu l'arrivée des jeunes et la garde qui commence à justement laisser la place à ces jeunes-là. On a vu Alex Palou, Rinus VK, Santino Ferrucci, oui. Pato O'Ward, des pilotes excessivement jeunes qui commencent lentement mais sûrement à prendre leur place, justement démontrer qu'ils ont eux aussi l'expérience nécessaire afin de justement dealer avec la pression autour de l'Indy 500. On a un Scott Dixon qui cherche à briser son fameux Indy 500 curse, lui qui n'a pas gagné depuis, je crois, 15 ans, qui il y a tout le temps quelque chose qui vient lui mettre du bâton dans les roues. On a une écurie McLaren Arrow qui est absolument folle sur en termes de vitesse, oui. Sur les sur de longues distances. On a plusieurs débutants cette année, dont Benjamin Pedersen, un Norvégien, si je ne me trompe pas, mm-hmm. qui part en 11e place et qui a battu des gens comme Will Power, Joseph McGarden, Lucas Canavez, qui s'est qualifié devant eux. Donc, on a plusieurs histoires intéressantes. On a plusieurs profils à suivre lors de la course. Et personnellement, mon argent est sur l'une des voitures McLaren.
Okay.
On va peut-être en discuter plus tard, mais je vois Felix Rosenqvist et Pato O'Ward absolument collé à Alex Palou. Personnellement, Rinus VK, je sais Abdou que tu l'aimes bien, mais pour moi, un peu comme le Bitcoin, ça commence fort, mais ça crache éventuellement. Mon argent est sur les voitures d'Arrow McLaren.
OK. Et je viens d'écrasser dans le chat pour voir la réaction de Julien s'il ne dort pas. Donc, tu dis... Une victoire de Arrow McLaren, et oui, ils ont été assez rapides tout le long du week-end, surtout Felix Rosenqvist, qui a été, ma foi, excitant. Pato O'Ward, j'ai hâte de le voir. Les circuits ovales, c'est son point fort. Il a fini deuxième l'année dernière derrière Marcus Ericsson, seulement interrompu par... par l'accident de Sage Karam dans le dernier tour. J'ai hâte de voir ce que les McLaren vont faire, surtout avec deux pilotes qui ont gagné les 500 000 avec Alex Rossi en 2016 et Tony Cannon en 2013. Et on sait que ça va être la dernière fois qu'on va voir le sympathique TK dans une voiture IndyCar. Donc... imaginez s'il repartait, s'il quittait l'IndyCar avec la plus grosse victoire que sont les 500 000 d'Indianapolis. Anna Maria, toi, est-ce que tu as hâte à l'édition 2023 des Indy 500?
Oui, bien sûr, c'est à chaque année. Moi, j'attends la course. Dès que finit mon course, je suis branchée sur la IndyCar, bien sûr. Et en plus, cette année, comme elle l'a dit, car il a déjà fait le tour de pilotes. Il y a Campino aussi, qui a pas nommé. Catherine Léger, qui retourne après. Mais elle est là, 42 ans déjà. Il performe comme. C'est de son équipe, c'est elle qui s'est qualifiée. Les autres deux, il faut qu'ils fassent le Bundé. Mais c'est sûr que, oh, en plus, Palo, qui est proche, il part à la pole, je ne suis pas très, très, très comme. Je dis, en l'Indy, c'est rare que tu partes dans la pole et gagnes la course. Je n'ai pas beaucoup vu ça, mais. Il y a Pato O'War aussi qui est proche. Mais c'est ça. Mais moi, Palo, c'est comme. Je l'ai vu depuis qu'il fait la course à F3, depuis qu'il se développe comme pilote. Fait que pour moi, le voir dans la. Pour moi, le voir dans la pole, c'est comme. Waouh! C'est un pilote que j'ai déjà fait des entrevues qui a été juste. Avant d'aller à la Super Formula, et que moi, il y a comme à indiquer, je sais pas, c'est quoi mon favori parce que ça change pendant que la course avance.
Ouais.
J'ai beaucoup de favoris à indiquer. Si tu me dis avec qui tu mets ton argent, je sais pas, mais Pato, c'est un bon choix parce que lui est beaucoup le. Oval, c'est préféré, c'est le circuit oval et sa première victoire c'était sur un circuit oval que l'année passée il était proche, mais j'espère que ça va y aller. Mais moi, comme je dis, pendant la course ça change mes favoris, mes Pato O'War et Alex Palou, c'est sûr que c'est de mes favoris. Ericsson aussi, c'est de mes favoris.
Et toi, Marc-André, as-tu hâte à l'édition de cette année du Indy 500?
Certainement. Je pense qu'on va avoir vraiment un dimanche de course assez intéressant, autant à Monaco qu'à Indianapolis. Le fait que Palou parte en premier, que Rosenqvist est troisième, je pense vraiment qu'on va avoir une course formidable. Puis, est-ce que VK va réussir à garder le rythme aussi en deuxième position? Est-ce qu'il va être capable de justement résister aux attaques autant de Rosenqvist que si Pato O'War connaît un bon début de course? Je pense vraiment que ça va être excitant.
Et surtout aussi, c'est que le Indy 500, c'est surtout une question de gestion d'essence et de pneus. C'est le plus important. T'as pas envie de rester premier tout le long parce que ceux derrière, ils vont utiliser l'aspiration pour justement lever le pied pour sauver des pneus, sauver de l'essence aussi. Donc, eux, ils vont pouvoir te outsmarter, excusez-moi l'anglicisme encore une fois, pour pouvoir justement attaquer au moment crunch. Moi, j'ai très hâte cette année parce que les McLaren sont rapides. Chip Ganassi a été absolument sensationnel. Et Dieu sait que maintenant, avec Palou qui part en pole, il y a quand même 3 pilotes sur 4 qui ont gagné cette édition. Ericsson, le champion en titre. Scott Dixon, comme Carl l'a mentionné pour la première fois, il y a déjà 15 ans, et Takuma Sato qui est un double vainqueur du Indy 500. Donc, Palou pourrait compléter le grand chelem en principe. Bon, excluant évidemment Marcus Armstrong parce qu'il fait seulement les circuits routiers. Santino Ferrucci, bon, c'est pas quelqu'un qu'on voit souvent dans les avant-postes, mais cette année, il a été absolument remarquables, surtout lors des qualifications pour AJ Foyt. Quand même, c'est... Et lors de ses quatre derniers 500 000 d'Indianapolis, il a fini dans le top 10. C'est quelqu'un qui carbure à ce genre d'événement. Et là, il va partir à la meilleure position possible. Il va partir quatrième. Il va pouvoir vraiment prouver comme quoi il c'est un expert. Ed Carpenter Racing avec, bon, Vicky qui est en première ligne, mais t'as aussi Connor Daly et Ed Carpenter qui font très bien autour du Brickyard. Penske, c'est un peu plus en retrait, mais ce sont des pilotes vraiment intelligents. Will Power va obtenir une deuxième victoire. Joseph Newgarden, bien que ce soit un des meilleurs pilotes de la série, un des poster boys de l'IndyCar, il n'a jamais gagné les 500 000 d'Indianapolis. Peut-être que cette année, c'est son occasion. C'est l'occasion. Mais je ne sais pas à quel point le rythme de course des Penske est bon comparé au McLaren Ganassi. Andretti un peu plus en retrait. On l'a vu, ça a été compliqué en qualification, mais est-ce qu'ils ont sacrifié ça pour la course? C'est à suivre. Carl Kirkwood est celui qui est le mieux placé présentement. Je sais pas, j'ai l'impression cette année, c'est sûr, moi j'aimerais ça voir Vicky gagner, c'est un de mes pilotes préférés, mais honnêtement, ça peut être n'importe qui parce qu'il y a tellement d'expérience, il y a tellement de vainqueurs, de pilotes qui ont l'opportunité de passer à l'histoire cette année. Mm-hmm. Et surtout, bon, l'histoire, Tony Kanaan, un pilote extrêmement sympathique, talentueux, qui a été très bon en IndyCar et qui veut couronner le tout avec une deuxième victoire. J'ai très hâte. Et surtout avec les kits aérodynamiques qui ont été vraiment améliorés cette année pour nous offrir une très bonne course. Et on l'a vu aussi au Texas Motor Speedway un peu plus tôt cette année. C'était une belle course. C'était une très belle course. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner autour de l'ovale de 2,5 miles. Mais vraiment, j'ai très hâte cette année. Ça va être une édition magnifique. Et honnêtement, qui va... J'espère que Vicky va gagner, mais je serais tout aussi content de voir quelqu'un remporter le Indy 500 pour la première fois de sa carrière. Et peut-être McLaren peut avoir une magnifique chance aussi avec Rosenqvist qui a été rapide et constant aussi, Pato Ward aussi qui veut se reprendre après avoir fini deuxième, non seulement dans les courses cette année, mais aussi lors du Indy 500 l'année dernière. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Et pour ceux et celles qui se demandent aussi, comment regarder au Canada, au Québec, les 500 000 d'Indianapolis, ben, ce sera sur TSN avec évidemment avec les émissions d'avant-course, entrevue, présentation des pilotes, le Back Home Again in Indiana, c'est à partir de 11h30 et le drapeau vert va être à 12h45. Donc, si jamais vous n'aimez pas les préparatifs, vers 12h30, ben là, 12h30, 12h45, la course va commencer. Et aussi, ben, il ne faut pas oublier le Coca-Cola 600 à Charlotte aussi, qui est une des plus grosse course de la saison en NASCAR qui aura lieu à 18h et une des courses les plus longues de la saison d'ailleurs à ce compte. Et l'année prochaine, il y aura Carl Larson qui fera partie des 500 000 d'Indianapolis 2024 avec Arrow McLaren, gracieuseté de Hendrick Motorsports. Alors, j'ai bien hâte de voir. Et vous, est-ce que vous avez un favori pour les 500 000 d'Indianapolis? Et aussi pour le Grand Prix de Monaco aussi. Hein? veux dire, c'est un gros dimanche. Et d'ailleurs, on vous invite à notre émission d'après-course qui sera exceptionnellement lundi parce que nous allons enregistrer après les deux courses, celle de Monaco et des 500 000 d'Indianapolis. Donc, on va revenir sur ces deux épreuves, ainsi que Formule 2, Formule 3 aussi. Donc, lundi, sur toutes vos plateformes de podcast préférées, évidemment, il y a bulletingp.com pour lire les articles. Je suis en préparation pour le prochain Dis tes pensées aussi. Et on est disponible sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et faites comme Anna-Maria, Marc-André, Jean-Sébastien et moi. Et rejoignez le groupe Facebook La Monoplace. Alors, Carl, Anna-Maria, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là.
Merci à toi, Abby.
Un grand plaisir de faire partie de ce balado à vous. Merci pour l'invitation. Merci pour la belle discussion. Puis j'espère qu'on va avoir droit à un excellent fin de semaine rempli de courses automobiles.
Ah, j'ai très, très hâte, moi aussi. Et puis, le mot de la fin pour toi, Carl, parce que je t'aime tellement. C'est de l'amour pur que j'ai envers Carl. C'est juste l'âme de Julien que j'amène aussi. Mais pour vrai, merci d'avoir été là et de contribuer aussi à la discussion, autant sur le groupe Facebook qu'ici quand tu viens au bulletin GP. C'est cute. Il me fait un gros... Je vais faire une belle face cute. Alors, sur ce, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve lundi pour l'après-course du Grand Prix de Monaco et jeudi pour l'épisode hebdomadaire où on va revenir sur les deals Aston Martin Honda. Salut tout le monde!